Vous écoutez Quoi de Meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne-Laure Pinault.
L'automne est là, qui frissonne, alors on fête nos morts. À l'occasion de la Toussaint et de la fête d'Halloween, on va se demander pourquoi les femmes font peur et quelle place elles occupent dans les représentations de l'horreur. On va en parler avec notre zombie préférée, Anne-Laure Pinault. Salut.
Coucou.
Ça va?
Oui, ça va, je t'appelle depuis Montreuil, où le réseau est un peu problématique, donc cet enregistrement va promettre des petites surprises.
Et oui, parce que c'est le grand retour des émissions à distance du confinement. Voilà, on espère que ça ne durera pas trop longtemps. Alors, que nous dit l'actualité féministe cette semaine, justement, à ce sujet ?
Justement, à ce sujet, elle nous dit que ça va être encore des moments très difficiles pour les personnes qui subissent des violences conjugales. On rappelle encore une fois, s'il le faut, que le numéro, c'est 3919. Si vous avez un problème, vous pouvez aussi vous adresser aux commerçants que vous rencontrez tous les jours. On pense aussi aux femmes qui vont se taper la charge mentale du confinement, amener les enfants et surtout télécharger les attestations qui sont un peu compliquées. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de commander vos livres en librairie, qui font pour beaucoup du click and collect, d'aller faire un tour sur Etsy pour aider les artistes féministes et queer. Boycottez bien la Fnac et Amazon.
Achetez-vous des masques féministes.
Ah !
Il y en a, ouais.
Tu t'en as acheté, toi ?
Moi, c'est ce que j'ai fait.
Ah, génial !
Oui, et donc, pour revenir à la question des violences, on le répète, mais si vous êtes victime de violences, vous n'êtes pas obligé de rester chez vous. Évidemment, vous avez le droit de partir dans ces cas-là. Vous n'êtes pas coincé. Alors, maintenant, on va parler justement des femmes qui font peur. Alors, petite info, on a demandé à l'autrice Taous Merakchi, qui a fait le podcast Mortel chez Nouvelles Écoutes, et qui sort justement un livre à ce sujet, Mortel, adapté du podcast, de nous parler de son rapport à la mort et aux femmes qui font peur. Elle interviendra tout au long de l'émission.
Ouais.
Mais alors d'abord, pour remonter des temps immémoriaux, on peut d'abord mentionner de nombreuses divinités féminines de la mort que l'on va retrouver sous diverses formes selon les cultures. Alors, chez nous, on connaît déjà Perséphone, la reine des morts dans la mythologie grecque. Au Japon, il y a la déesse Izanami, qui régnait sur Yomi, le monde des morts, et non pas Yoni, hein, ça c'est la vulve en sanskrit. En Scandinavie, il y a Ella, comme dans une chanson de France Gall. Ella, Ella, qui est mi-femme, mi-cadavre, et qui règne sur les 9 mondes infernaux.
Waouh ! Il y a aussi Lilith, qui vient du mot hébreu de « nuit ». C'est une divinité hyper intéressante dans la mythologie hébraïque et chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'elle s'attaque aux femmes qui accouchent et aux nouveau-nés. Elle provoque des fausses couches. On s'en protège avec des amulettes. Au départ, la première femme d'Adam, qui a été évincée par Ève. C'est marrant comment on raconte les histoires et les mythes, et comment on construit les mythes. Comme on peut s'y attendre dans ce genre de cas, elle est présentée comme un succube. Qu'est-ce qu'un succube ? Un succube, c'est un fantôme qui couche.
Ouh, slut shaming.
Oui, parce qu'il y a un cube, c'est les fantômes masculins. Succube, les fantômes féminins, on comprend bien le principe. Bref, elle est aussi présentée comme la reine de Saba. Elle devient le serpent qui pousse Ève à la faute, donc c'est un peu une pécheuse au carré. Elle pousse Caïn à tuer Abel, bref, c'est une créature monstrueuse. Et ce qu'on aime par-dessus tout dans cette histoire de Lilith, c'est qu'elle a été évidemment réappropriée par les féministes. Aux États-Unis, il y a même un journal féministe juif qui s'appelle Lilith. Et donc, on aime bien comment on réinvente, on recycle les histoires misogynes.
Trop classe. Bon, alors évidemment, on peut pas se priver de parler un peu des sorcières, même si on en a déjà parlé en France et dans nos épisodes. Il faut quand même rappeler à la base que les sorciers sont des humains qui pratiquent la magie. Mais si les sorciers sont soit gentils, donc on en a des exemples dans Harry Potter, dans Merlin l'Enchanteur, ou bien le mal incarné, c'est le cas de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Les sorcières, quant à elles, ont longtemps été dans l'histoire des femmes vouées à l'abomination. D'ailleurs, souvent, les femmes victimes de ces jugements étaient soit des jeunes femmes trop belles, soit jugées trop indépendantes ou trop masculines selon les codes binaires, hein, qui sont d'ailleurs toujours en vigueur, CF Jeanne d'Arc, soit parfois des femmes en situation de handicap, neuroatypique ou atteinte d'épilepsie. Et comme le canon esthétique l'a conservé dans nos esprits, ça peut être une vieille femme célibataire ou veuve en général, parce que le fait de s'extraire du domaine de la séduction, d'être indépendante du pouvoir masculin, fait fait peur. Donc ce sont des femmes qui se rassemblent entre elles pour pratiquer le sabbat, qui donc font peur avec leur complot effrayant. Donc c'est surtout au XVIe et au XVIIe siècle, hein, on le sait maintenant, on l'a beaucoup entendu, que les persécutions contre donc ces pseudo-sorcières et sorciers ont mené au bûcher beaucoup d'innocents. On estime d'ailleurs qu'en plusieurs siècles de persécutions, il y a eu plus de 110 000 procès en Europe et près de 100 000 morts. Oh ouais, ouais, ouais. 80% des victimes étaient des femmes, les 20% d'hommes étaient le plus souvent des marginaux ou des vagabonds. Et évidemment, certains procès étaient proactifs, c'est-à-dire qu'en Angleterre, par exemple, on jetait les femmes dans l'eau avec des rochers, et s'il s'avérait qu'elles flottaient, c'est que Dieu avait décidé de les sauver. Donc voilà. Ça,
ah oui, efficace.
Ça, la démonstration est imparable. Et la dernière de ces femmes à avoir été exécutée pour sorcellerie en Suisse, c'est Anna Goldin, qui est restée une figure célèbre. C'était une servante qui avait été accusée dans son canton d'avoir ensorcelé une fillette de 8 ans dont elle avait la garde. Elle a été torturée puis décapitée en 1782 et finalement elle a été réhabilitée en 2008 et la vérité a enfin été faite sur son calvaire. Il s'avère qu'elle avait en fait déposé plainte pour harcèlement sexuel contre son patron, ce qui l'a menée tout droit au pilori. Voilà, c'est assez actuel finalement comme fait divers.
Totalement. On peut aussi rappeler l'histoire de Salem qui est très connue parce qu'elle a été vachement utilisée dans la pop culture. C'est une histoire où la fake news a été complètement montée en mayonnaise. Un peu.
Alerte.
À cette époque, en 1692, le territoire américain, c'est quoi? Bah, c'est une colonie avec des colons qui sont sujets à de grands fléaux puisqu'ils ne connaissent pas du tout le territoire qu'ils viennent de s'accaparer. Ils subissent à juste titre les attaques des peuples colonisés. Ils ont faim, ils ont froid. Ils ont besoin donc d'un bouc émissaire pour expliquer leur malheur. Et c'est les racontars de deux adolescents qui vont nourrir une chasse aux sorcières qui tombe sur qui? Sur 14 vieilles femmes et 5 hommes.
The first convicted witch, Bridget Bishop, was described as wearing black clothing and odd costumes, which was against the strict Puritan code of Salem. She was hanged on June 10th, 1692, at Gallows Hill. 18 more people were executed by hanging after being convicted of being a witch. Several others died in prison, and one man was even crushed to death by heavy stones as a form of torture. Contrary to popular belief, none of the condemned were burned at the stake.
C'est un peu un fait fondateur dans la société occidentale, puisqu'elle montre un peu les mécanismes de la violence populaire qui a pu, en d'autres temps, tomber sur les juifs, par exemple. D'ailleurs, quand on se promène à Salem, il y a un mémorial très émouvant aux victimes, justement, de ces faux procès de Salem. Et c'est vraiment très, très émouvant de constater que les vraies victimes, ce sont ces personnes-là.
Ouais, ça donne trop envie d'aller à Salem. Peut-être un jour, quand on pourra revoyager. Mm. Il y a un autre cas plus proche de chez nous qu'on peut citer. C'est l'histoire de Lila Hadid, qui était une femme accusée de sorcellerie et qui a été tuée en Écosse au XVIIe siècle. Il faut savoir que les estimations comptabilisent à peu près 3300 accusations de sorcellerie et environ 1400 exécutions rien que pour l'Écosse. Et la journaliste Hélène Molinari, que l'on connaît toutes les deux, lui a consacré un passionnant reportage dans le dernier numéro de Ça m'intéresse Histoire. Elle raconte sa réhabilitation actuelle, ouf, par les autorités du comté où elle a été exécutée. Alors on la cite. Selon l'archéologue Douglas Spears, Lila était probablement suspectée d'être une sorcière depuis longtemps et était simplement une cible facile. Elle était vieille, elle était grande, elle avait de grandes dents, elle était sans doute veuve ou du moins célibataire puisqu'on ne trouve aucune mention de son mari. Et sa confession était évidemment remplie d'ineptie. Tout ce qu'elle a avoué correspondait presque mot pour mot au manuel d'identification des sorcières très commun à l'époque qui s'appelait démonologie. Et donc, dans ce manuel, il y avait, entre autres, l'idée qu'elle aurait couché avec un démon et renoncé à son baptême chrétien. Voilà pour le tableau.
Quelle horreur. Il y a aussi beaucoup de sorcières qui ont été accusées parce qu'elles étaient des soigneuses ou des rebouteuses. Donc, elles faisaient, en fait, finalement, le bien, en dehors de la médecine accaparée par les hommes. Mmh. Et faire cela, c'est donc être du côté de Satan. Mmh. On peut citer le cas de Marie Laveau, qui est une grande prêtresse vaudou, une puissante femme noire qui a été très importante à la Nouvelle-Orléans. Dans les récits, elle prévenait les inondations, elle soignait les vivants, elle réveillait les morts. En vrai, c'était un peu une rebouteuse coiffeuse qui avait créé son propre système de solidarité dans une ville meurtrie par l'esclavage. Et donc, évidemment, elle a été déclarée sorcière par les blanches et les blancs. qui ne comprenait absolument rien au vaudou. On peut aujourd'hui encore se recueillir sur ses tombes au cimetière Saint-Louis I et Saint-Louis II parce qu'elle a deux tombes. L'une qui est officielle et qui est cernée par les marques de reconnaissance des touristes, donc ils mettent des colliers de Mardi Gras par exemple, et l'autre qui est anonyme et qui est parsemée de croix et des offrandes de ceux et celles qui savent. C'est absolument émouvant d'y aller d'ailleurs. On peut aussi rappeler que la sorcière est bien évidemment toujours une tentatrice. On peut citer Circé dans l'Iliade et l'Odyssée qui change les hommes en porcs, comme le chante si bien la chanteuse Juliette. On l'écoute.
Mutatis mutandis, ici je veux un groin, un jambon pour la cuisse et qu'il te pousse au rein.
On peut aussi citer Dahut. Dahut, c'est celle qui a voulu protéger sa ville d'Is et qui finalement hante la baie de Douarnenez car c'est une putain. Le récit de ce mythe breton a été évidemment christianisé. Donc ces attaques-là, ces récits fondamentalement misogynes, ils ont mené au fait que de nombreuses féministes se sont évidemment réappropriées cette image en allant plus loin que les démarches de montrer de gentilles sorcières, comme au hasard, ma sorcière bien-aimée.
Et j'ai pris une grave décision, celle de te garder, chérie, parce que je t'aime.
Oh, Jean-Pierre! Oh, je serai la femme la plus aimante qui ait jamais existé.
J'en suis persuadée. Et si tu le veux, nous mènerons l'existence la plus normale et la plus heureuse, sans petit tour.
Hein. Oh non, non, ça je te le promets.
Sabrina, Buffy ou Charmed. On a pu voir d'ailleurs dans les rues, après MeToo, des super slogans. Je pense qu'on les a toutes vues. Nous sommes les filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Il y a aussi les sorcières qui ont défilé contre Trump.
What I hope for is that we collectively have the capacity with our bodies, with our spirits, with our minds to overcome what it is we've been given.
So mote it be!
So mote it be!
So mote it be!
Bref, c'est chouette de voir ce backlash un peu inversé sur la figure de la sorcière.
Oui, justement, dans le folklore européen, on trouve un certain nombre de figures plus ou moins inquiétantes, notamment les dames blanches qui ont été accusées de provoquer des accidents, qui auraient en fait un lien avec les fées. Alors on se demande souvent si elles sont bénéfiques ou maléfiques, puisque ce sont des apparitions qui préviennent de la mort, qui peuvent vous précipiter d'une falaise, faire cracher votre bateau ou vous inviter à vous noyer, mais ce qu'on sait moins, c'est que ce sont aussi des apparitions qui aident les malades à mourir. Donc là, elles pourraient être plutôt bénéfiques. En tout cas, il y a évidemment une fonction sociale de ces récits, ce qu'on appelle en anglais « cautionary tale », donc des récits pour faire attention en société.
C'est un peu des doulasses.
Ouais, c'est ça. Et alors, il faut aussi rappeler le rôle qu'ont joué certaines femmes dans l'invention et la diffusion du spiritisme au XIXe siècle, puisque, en fait, c'est l'histoire de deux fillettes qui, peut-être, auraient été manipulées par leur grande sœur. Ça serait peut-être un hoax. C'est, en tout cas, le destin des sœurs Kate et Margaret Fox, qui sont deux fillettes de l'Amérique puritaine. Par une nuit de mars 1848, elles ont des bruits dans la vieille ferme où elles habitent en Nouvelle-Angleterre. Et à ce moment-là, elles vont inventer ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on connaîtra en tout cas au 19e siècle comme étant le spiritisme. C'est-à-dire qu'elles vont entrer en contact avec l'esprit de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Splitfoot.
Now do just as I do. Count one, two, three.
Et ensuite, voilà, suite à cette conversation avec un mort, la famille va découvrir des ossements dans la cave. Puis, leur sœur aînée, Lia, qui a 20 ans de plus, va, avec l'aide d'hommes d'affaires venus de Rochester et de financiers de Wall Street, rêver de fonder tout un empire à partir de cette espèce de jeu de société macabre qui va effectivement faire naître la folie de l'occultisme en Occident. Alors, entre-temps, après ce premier événement, les sœurs vont changer d'avis, elles vont se rétracter, elles vont être délégitimées, disqualifiées, même si l'occultisme, lui, va vraiment prendre son essor. Et finalement, en 1904, on va, après leur mort, trouver un autre cadavre enterré dans leur maison qui va alimenter le doute et la méfiance dans les deux camps. Toute cette histoire est d'ailleurs racontée dans le livre « La théorie de la vilaine petite fille » d'Hubert Haddad. Je vous invite à vous y référer.
Ouh. Un peu flippant. D'ailleurs, en parlant d'histoire flippante, il n'y a pas que Stephen King et Edgar Poe dans la vie. Il y a aussi des autrices de tradition gothique. Alors, on peut évidemment parler d'Edith Wharton, qui est considérée un peu comme la queen du roman gothique avec ses nouvelles de fantômes. Mm. Elle est d'ailleurs la première femme à avoir obtenu le prix Pulitzer.
Ouais. Et on peut d'ailleurs visiter sa maison en Nouvelle-Angleterre, qui est assez incroyable.
À chaque fois que tu dis Nouvelle-Angleterre, j'ai l'impression de voir un fantôme. J'adore. L'autrice a utilisé l'écriture, en fait, pour exorciser ses démons, parce que, à l'époque, évidemment, être une femme, c'est un peu être une morte vivante dans la société dominée par les hommes. Mm. Et écrire sur les fantômes et le surnaturel, c'est un peu une façon de déconstruire la religion et ses méfaits, et les relations de pouvoir entre les genres. C'est un peu comme faire un carnaval, mais sur des pages blanches. Mm. Il y a aussi Mary Shelley, qui avait 19 ans quand elle a écrit en 3 jours Frankenstein, quand même. Elle avait une vie pleine de deuil, donc ce livre lui a aussi permis de les explorer.
Et en plus, c'était quand même la fille d'une grande philosophe féministe, Mary Wollstonecraft. Donc voilà, les chats ne font pas des chiens.
On est bien d'accord. Et en vrai, elles ont été hyper nombreuses à se mettre sur le filon. Les femmes auraient même contribué à hauteur de 70% à toutes les histoires de fantômes publiées dans les magazines au 19e siècle. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le surnaturel d'ailleurs a aussi été un moyen de faire du commentaire social critique sans trop le faire, c'est-à-dire un peu en sous-marin. On peut citer le livre La séquestrée de Charlotte Perkins, donc un livre où elle raconte les souffrances que vivent les femmes au quotidien à travers une histoire de fantômes qui hante les murs de la maison. Mmh. On vous en dit pas plus. Il y a aussi la formidable Shirley Jackson, qui est une autrice américaine morte bien trop jeune, à 48 ans, et qui a pondu quand même La Maison Hantée, considérée par Stephen King comme le meilleur livre d'horreur, et qui a inspiré The Haunting of Hill House, si vous l'avez regardé sur Netflix.
Maintenant, vous allez faire un bon dodo.
Mais si jamais j'avais un mauvais rêve.
Mais oui, tu nous en avais déjà parlé, puisque tu es fan de Shirley Jackson.
Moi, je suis fan de Shirley Jackson. C'est une autrice absolument folle. Elle a écrit « Nous avons toujours vécu au château » aussi, et une nouvelle que j'adore qui s'appelle « La loterie », mais que je peux pas raconter sans spoiler, mais elle-même a fait une super bonne blague. Elle a dit que bien des lecteurs et des lectrices avaient cru qu'au final, la protagoniste de cette nouvelle allait gagner une machine à laver, alors que je vous en dis pas plus, mais c'est pas une machine à laver qu'elle a gagnée. Et puis bon, non contente de signer des romans hyper flippants avec des personnages de meufs puissantes, dont des personnages lesbiens, elle a aussi écrit un livre pour enfants sur les sorcières de Salem.
Oui.
Et elle est très connue pour être une breadwineuse qui se cache pas du tout de faire vivre sa famille avec sa thune et ses livres. Son fils était d'ailleurs hyper furax qu'un film soit fait sur sa mère. Ce film, Shirley, devait sortir normalement en 2020. Il va plutôt être disponible en VOD.
To our suffering, my dear.
There's not enough scotch in the world for that.
Shirley, what are you writing now?
A little novella. I'm calling none of your goddamn business.
C'est Elizabeth Moss qui joue l'autrice et elle la présente un peu comme une femme hantée par ses propres récits, un peu une femme alcoolique, très tourmentée, et selon ses proches, c'est plus sensationnaliste que véritable. Donc, dommage.
Oui, et aujourd'hui, on n'oublie pas qu'il nous reste toujours cette bonne vieille Anne Rice qui a écrit « Entretien avec un vampire ».
Ça, c'est vrai.
Alors, on va écouter ce que nous en dit Taous Merakchi à propos de ces femmes monstrueuses et de ces femmes qui se vengent.
J'ai une préférence pour les femmes monstrueuses, de manière générale, qu'elles soient d'origine divine ou non, d'ailleurs, mythologique, que ce soit parce qu'elles sont possédées aussi, c'est possible, qui deviennent monstrueuses ou qui naissent monstrueuses ou qui révèlent leur monstruosité au fil de leur vie suite à certains événements un peu marquants. J'aime les succubes, les monstres, les démons, les déesses de la vengeance, de la violence, de la colère. Ouais, j'aime les femmes en colère, en fait. Les femmes qui se vengent beaucoup. C'est marrant, je sais pas pourquoi, hein, ça me titille comme ça. Je me demande bien pourquoi la colère et la vengeance, c'est des thèmes qui, en tant que femme et ancienne victime de harcèlement scolaire, peuvent bien m'intéresser. Mais ouais, je trouve qu'il y a un truc hyper, hyper galvanisant dans ces histoires de femmes monstrueuses.
Alors, en effet, il y a cette figure du fantôme qui se venge, qui est une version, en fait, du retour du refoulé en psychanalyse. C'est-à-dire qu'on retrouve souvent, dans ces récits, un même schéma narratif Souvent, c'est une belle jeune femme qui est la proie d'un psychopathe. Puis, cette femme morte et très vénère va revenir et se venger. C'est un motif qui est un peu fatigant lorsqu'il va mettre en jeu une demoiselle en détresse. Mais dans tous les cas, il va bien signaler les rapports de pouvoir et de genre qui sont au cœur de ces dynamiques, y compris au-delà de la mort. Et c'est le cas d'ailleurs des victimes d'assassinats ou de féminicides qui vont se venger. Par exemple, dans le film Shining, il y a cette femme nue qui s'avère être une vieille femme dans la baignoire, qui s'est en fait suicidée et qui revient hanter Jack Torrance, donc le héros joué par Jack Nicholson. Mais alors, au-delà de l'émotion ou de la compassion qu'on peut avoir pour ces femmes fantômes, ça nous explique bien quelle est la recette du patriarcat. Voilà, vous traitez mal des femmes de leur vivant, bah, elles vont revenir vous hanter. Voilà, sans nécessairement... tomber dans l'idée de la psycho bitch, donc de la bitch psychopathe jalouse qui veut se venger.
Ah, et d'ailleurs, j'ai envie de raconter une histoire de fantôme, puisque c'est un peu l'occasion, là.
Vas-y.
Il y a une plantation au nord de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle la Myrtle's Plantation, et quand on va la visiter, on nous raconte l'histoire de Chloé. Chloé, ce serait le fantôme qui hante les murs de cette ancienne plantation esclavagiste. C'est une esclave qui aurait été abusée par son tortionnaire. Elle aurait empoisonné sa femme et ses enfants avant d'être pendue haut et court dans le chêne vert de la propriété. Et selon plusieurs témoignages, elle viendrait pour se venger régulièrement, faire peur un peu à tout le monde. À raison. Et il y a même une photo d'elle qui existe, et c'est vrai que la photo est un peu spooky. Bref, il y a une équipe de chasseurs de fantômes qui s'appelle les Ghost Hunters. C'est des gros gars qui se la pètent de ouf et qui ont tout un matos pour venir faire leurs gros gars dans les maisons hantées. Ils sont venus confirmer la présence dans les lieux de cette martyre. D'ailleurs, on peut rappeler que le milieu des chasseurs de fantômes n'est pas vraiment le milieu le plus féministe. Pour un papier pour Committed, j'avais rencontré une bande de chasseuses de fantômes françaises menées par Vonette Fantôme, connue sur les réseaux sociaux avec leur vidéo Les Nuits du Chasseur. D'ailleurs, Vonette peut nous en dire un peu sur ce que c'est que le sexisme dans le milieu des chasseurs de fantômes. Et parce que, petit spoiler, les meufs subissent aussi du mansplaining et du manspreading dans l'au-delà.
Jamais tranquille.
Je chasse les fantômes sur le terrain depuis environ 5 ans. J'ai commencé mes recherches il y a un peu plus longtemps, des recherches littéraires, des recherches voilà sur internet, à me renseigner sur plein de choses. Mais ça fait 5 ans que je vais vraiment sur le terrain, dans des lieux réputés hantés, pour essayer de travailler voilà avec les entités, avec les fantômes. Le sexisme est partout, y compris après la mort. C'est affligeant et ça nous a un peu perturbé quand on a commencé à faire ce genre de constat. Mais ça nous est arrivé, et ça nous est arrivé plusieurs fois, d'être face à des entités féminines qui nous disaient subir des pressions de la part d'une entité masculine. Et c'est vrai que souvent, et ça on le voit aussi beaucoup aux États-Unis, avec les lieux hantés aux États-Unis, lorsqu'il y a un lieu dans lequel il y a plusieurs entités, ça va être souvent une entité masculine qui prend un peu le dessus par-dessus les autres et qui va, par exemple, empêcher une entité de parler, empêcher une entité de se manifester, lui faire peur, voilà, essayer de l'impressionner un peu comme ça peut arriver malheureusement dans le monde des vivants. Et en tout cas, cette forme de sexisme semble ne pas s'arrêter avec la mort. Nous, avec le groupe, les quelques fois où c'est arrivé, on a mis un point d'honneur justement à dire à haute voix, à prendre quelques minutes pour expliquer aux entités qu'il ne fallait pas avoir peur, que personne n'avait l'ascendant sur personne et que si quelqu'un voulait nous parler, le micro était ouvert à tout le monde et qu'il ne fallait pas avoir peur. C'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, d'essayer de rassurer en fait les entités, a fortiori des entités féminines, et de leur dire qu'il ne faut pas avoir peur. Oui, je peux vraiment l'assurer, le sexisme existe malheureusement, même une fois que la vie s'est arrêtée. J'essaye de réfléchir à est-ce que ça nous rend plus fortes ou plus courageuses de travailler entre meufs. Plus courageuses, oui, clairement. Parce que quand on est une meuf, au quotidien, on est courageuse. Parce que affronter la société, ça demande du courage quand on est une meuf. Et affronter les fantômes, ça demande aussi du courage. Le groupe est constitué de 5 personnes, donc 5 filles. De plus, 4 personnes non hétérosexuelles. Effectivement, je mentirais si je disais que je ne pense pas que lorsqu'on arrive en enquête, on arrive aussi un petit peu avec ce courage dont on a besoin au quotidien, tout simplement, pour s'affirmer en tant qu'homosexuel, mais aussi en tant que femme. Donc oui, ce courage, il est là. Et que probablement que sans s'en rendre compte, quand il est 4h30 du matin et qu'on est dans une cave à essayer de faire interagir un vieux baron connu pour avoir été tyrannique, oui, effectivement, probablement que ce courage de nous cinq se mêle et devient une espèce d'armure, un peu à la chevalier du zodiaque. C'est possible, c'est possible. Est-ce que ça nous rend plus courageuses? Par contre, non. Ça, on a toujours aussi peur. Et enfin, en tout cas, dans le groupe, les peureuses entre guillemets, je dis ça pas du tout de façon péjorative, resteront toujours peureuses, je pense. Les courageuses resteront toujours courageuses. Mais le fait d'être une meuf ne change rien. Par contre, effectivement, ouais, je pense que ça doit changer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit émaner de nous parce que on est toutes un peu des guerrières, on a toutes un peu cette armure que les gens voient pas. Et je pense que quand on est toutes les cinq ensemble, cette armure, elle doit être démultipliée et ça doit forcément compter quelque part. Enfin, en tout cas, je l'espère.
Et alors, pour voir justement des chasseuses de fantômes un peu plus féministes, on vous invite à revoir le reboot de Ghostbusters, donc SOS Fantôme, donc entièrement féminin, réalisé par Paul Feig, qui est un cinéaste de comédie qu'on aime beaucoup.
We have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's sightings all over the city. There are people out there that need our help.
Évidemment, le film avait été très mal reçu par les gros mecs des années 80, vexés comme des poux qu'on touche à leur précieux film. Il faut quand même dire que dans l'original SOS Fantôme, Sigourney Weaver jouait une monstresse assoiffée de stupre qui sortait du placard comme dans un vaudeville. Voilà. Je sais pas si c'est son meilleur rôle, mais en tout cas, c'était très drôle.
Merde.
Ce qu'on peut dire également, c'est que parmi toutes ces figures de femmes monstrueuses et qui font peur, il y a le motif de la femme possédée. Alors évidemment, on ne compte pas les histoires de possession avec convulsion et lévitation en prime, qui touchent bien plus souvent des femmes que des hommes, puisque les démons sont curieusement plutôt des hommes. Alors ce n'est pas que les femmes seraient plus crédules et qu'elles croiraient davantage aux fantômes, simplement elles sont davantage montrées comme des victimes en proie à leurs émotions. D'ailleurs, on se souvient de ce texte de Michel de Certeau qui a écrit sur la possession de Loudun en 1632. Donc c'est une petite ville dans la Vienne qui a été ravagée par la peste, puis par la possession, puisque les membres de la communauté religieuse des Ursulines se sont claquemurés pour se protéger, et elles ont commencé à voir, dans la nuit du 21 septembre, un fantôme qui, peu à peu, a pris la forme du curé, le curé Urbain Grandier. Alors celui-ci, malheureusement, a fini au bûcher le 18 août 1634. On s'est beaucoup interrogé sur cet épisode. Est-ce que c'était un épisode d'hystérie collective? En tout cas, il est évident que les travaux de Charcot puis de Freud se sont nourris de ces manifestations peut-être psychosomatiques ou en tout cas violentes du corps féminin en lien avec la spiritualité.
Et on peut faire confiance à Freud sur le fait que c'est les femmes qui se font posséder et pas les hommes. Ça, il n'y a pas de problème.
C'est clair. Bon vieux Sigmund. Et moi, je recommanderais d'ailleurs à ce sujet la série du couple Michel et Robert King. Alors, c'est le couple qui avait quand même réalisé The Good Wife, donc on les aime beaucoup. Et ils ont fait une série qui a été assez peu remarquée, qui s'appelle Evil.
I like the sound of a woman screaming.
Et qui est sorti l'année dernière et qui met face à face un prêtre afro-américain de l'église et une psy experte en criminalité, et donc qui oppose à chaque fois la spiritualité et la raison dans des cas où ces deux personnes doivent juger de possession, d'exorcisme, de fake news.
Voilà, génial.
Je vous la recommande. Moi, j'ai beaucoup aimé la dynamique entre ces deux personnages.
Ça fait un peu dynamique Mulder et Scully, quoi.
Ouais, carrément. Et en plus, ça fait un peu peur, donc tant mieux.
Et d'ailleurs, il faut bien rappeler que la peur est d'abord un outil d'oppression pour empêcher les femmes de sortir de chez elles. On construit culturellement les peurs via des films, via des romans, qui deviennent ensuite des barrages contre le fait de voyager seule, de rentrer chez soi, de vivre en ville, de faire du vélo en race campagne ou de faire, je sais pas, du stop ou de prendre un bus. Mmh. Bref, depuis les débuts, le cinéma et les romans terrifiants ont choisi de montrer des femmes proies en plus des femmes monstres. C'est les proies des tueurs en série. On retrouve leurs cadavres dément démembrés et martyrisés dans les fossés, les rues, les baignoires. Bon, c'est quand même ça le film d'horreur à la base.
Oui, alors que dans la réalité, les chiffres montrent davantage que la violence est soit conjugale, soit intrafamiliale, et que les agresseurs surtout sont connus, donc ce ne sont pas des inconnus dans des ruelles. Mmh. Voilà, mais effectivement, cette question des violences conjugales, elle revient parfois dans les récits de fantômes, puisque certaines femmes peuvent avoir des bleus inexpliqués, des marques inexpliquées,
ouais,
qui évoquent justement les violences contre les femmes. D'ailleurs, c'est le cas dans le film The Conjuring avec le couple Warren, couple de démonologues Lorraine et Ed Warren, donc qui sont des personnes qui ont réellement existé. Et ce qui est intéressant dans ce film de James Wan, c'est qu'il y a une vraie division genrée du travail entre les démonologues, puisque c'est la femme qui a un don pour sentir la présence des fantômes, mais c'est le mari qui va faire les travaux plus physiques et mener les exorcismes.
Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Fais-nous signe si tu veux communiquer avec nous.
En tout cas, dans les fictions, le point de vue est rarement celui des victimes. Parfois, ça va même très loin, puisque le spectateur ou la spectatrice sont parfois même mis du côté du criminel. C'était le cas dans le film Maniac avec Elijah Wood en 2012. On se souvient que beaucoup de femmes avaient quitté la salle et que beaucoup d'hommes étaient restés voir ce film. Et bon, heureusement, aujourd'hui, le cinéma adopte de plus en plus ce qu'on appelle le female gaze, donc le regard féminin. On se souvient par exemple du film Invisible Man qui était sorti juste avant le premier confinement avec Elisabeth Moss, dans lequel on suit donc cette femme qui se bat contre toute une société qui ne reconnaît pas justement la violence conjugale.
Ouais.
Écoute, t'as retrouvé ta liberté, c'est ça qui compte. Le laisse pas te hanter.
Y a quelqu'un ?
Alors, on va un petit peu parler de notre expérience, puisque le surnaturel, c'est notre dada, n'est-ce pas? Puisqu'on est toutes les deux fans de X-Files et que les films d'horreur, c'est notre cam. Toi, qu'est-ce que tu as comme expérience avec l'au-delà?
Ah bah moi, j'ai une longue expérience avec l'au-delà. Déjà, je crois que je me suis construite avec les films d'horreur, en particulier avec Blair Witch.
Mm.
Je suis fascinée par les histoires de fantômes depuis toujours et ces histoires n'ont de cesse de me tomber dessus.
Mm.
Donc, je suis environnée de personnes qui sont médiums, de gens qui voient les morts, comme dans sixième sens. Et c'est vrai que c'est un truc contre lequel j'aime bien me frotter. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'éprouver ma peur contre les requins en me baignant sur la plage des Dents de la Mer, par exemple.
Ah ouais, mais tu cherches la merde.
Ouais, contre les fantômes en dormant dans la forêt de Blair Witch.
Oh mon Dieu, mais quelle horreur.
Je suis allée dans des maisons hantées, rouler sur les routes où on disait que la Dame Blanche avait été aperçue.
Mm.
C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi parce que je trouve ça très émouvant parce que ça raconte que les gens n'ont tout simplement pas envie d'admettre que la mort, ça peut être le grand trou, le grand rien.
Mmh.
Je trouve dans les histoires de fantômes énormément de tendresse et surtout quelque chose d'universel. Enfin, les fantômes existent dans toutes les cultures du monde. Donc, je trouve ça profondément émouvant. Et voilà. Et toi ?
Oui, alors moi aussi, parfois, voilà, ça me tombe un peu dessus. D'ailleurs, j'ai passé une partie de l'été dans une maison que certaines d'entre nous disaient être hantée, où on dort assez mal, dans laquelle il y a beaucoup de bruit. Moi, j'ai pris quelques photos. On voit des taches de lumière apparaître au-dessus d'un portrait de la Vierge. C'est un peu flippant.
Mmh. Ah, j'ai vu la photo, tu me l'as montrée.
Bah oui, et on a aussi retrouvé des taches mouillées dans les lits. Enfin voilà, donc tout ça est sujet évidemment à interprétation. Dans la petite ville bretonne que je fréquente, il y a également une maison hantée que tout le monde connaît et dans laquelle je rêve de dormir et de faire un reportage. Donc peut-être que ça se fera un jour. Donc moi aussi, je suis fan de X-Files, comme toi, depuis le lycée. L'année dernière, j'ai aussi été visiter le cimetière du Père Lachaise avec un vampirologue qui nous a raconté plein d'histoires incroyables sur tous les rituels que font les gens autour des tombes. Donc on a pu interpréter en fait tous les petits signes qu'on ne comprendrait pas habituellement. Moi de mon côté, je ne pratique absolument pas ce genre de rituel. Je n'ai pas de planche de Ouija parce que ça me fait trop flipper en fait. Je préfère regarder des films parce que je trouve que c'est plus safe d'avoir de l'adrénaline. Et j'ai un genre préféré qui est celui de la maison hantée.
Ah moi aussi.
Puisque évidemment, maison égale chez soi, égale dans la tête, égale la psychologie. Voilà. Mmh. Donc, et d'ailleurs là, pour le Halloween confiné, j'ai vu pour la première fois à distance avec des potes, on a regardé ensemble, Hocus Pocus, alors qui ne fait absolument pas peur, mais qui est donc un film sur des sorcières à Salem. Twist the bones and bend the back. Here to decapit the Malachi Mystic. Back in 1693, the people of Salem, Massachusetts. Witches!
thought they got rid of the Sanderson sisters for good.
Alors évidemment, c'est un film Disney, hein, il faut le prendre avec des pincettes, mais il y a quand même Sarah Jessica Parker et un puceau effarouché, donc c'était vraiment très drôle.
Oh là là.
Alors, quel est le lien entre toutes ces activités occultes et le féminisme ou les questions de genre? Peut-être que vous vous posez la question, n'éteignez pas l'émission, puisqu'on va écouter le témoignage d'Éléonore qui va nous raconter comment la transmission familiale d'un savoir à la fois spirituel et ésotérique a eu lieu de femme en femme.
Le folklore familial nous a été transmis par ma grand-mère quand elle nous gardait avec ma cousine. Elle nous a fait une petite éducation ésotérique. Sa propre mère était magnétiseuse pour les gens de sa petite ville et ma grand-mère avait hérité de ses dons. Ça se transmettait entre les générations. Ma tante l'a eu, plus j'en aurais hérité. Ce sont des capacités selon elle. Il ne s'agit pas forcément de soigner mais au moins de soulager les douleurs. Je l'ai vu quelquefois inviter des gens du voisinage et mettre ses mains proches de la personne sans jamais la toucher. Et j'ai vu ma tante faire de même. Quand on se brûlait, elle disait « Viens, je vais te soigner ». Cela vient, selon elle, d'une capacité d'empathie qui permet de ressentir les énergies. Elle nous faisait aussi faire du spiritisme parfois dans une pièce en bas de la maison, près de la cave. C'est un peu curieux quand on est petite. Je me souviens qu'on a eu les pétoches, je devais avoir 5 ou 6 ans, et on a senti des choses bouger sur la table. J'ai ouvert un œil pour voir si personne ne touchait le verre retourné, qui à un moment s'est renversé d'un coup. On est parti en courant avec ma cousine. Plus tard, quand j'allais en soirée en boum au collège et au lycée, c'était à la mode à l'époque, du coup je faisais un peu la maîtresse de séance. Et ça se passait plus ou moins bien. Une année, un tueur de la région avait tué des femmes en abandonnant leur corps au bord de la rivière. En soirée, on décide de se mettre tous en tailleur dans le garage et on appelle le tueur. Si tu nous entends, envoie-nous un signe. La porte d'entrée du garage a claqué d'un coup et l'établi s'est renversé avec tous les outils. C'était peut-être un courant d'air, mais tout le monde a hurlé. Certains se sont mis à pleurer comme des bébés. Au début, je m'amusais un peu comme ça, mais au fur et à mesure, ça m'a fait un peu peur. Des forces me dépassaient. J'essaye de rester rationnelle, mais je me dis que peut-être des gens servent de portail, sont des aimants qui attirent les énergies, je ne sais pas. En tout cas, vers 18-19 ans, j'ai décidé de fermer la porte à cet aspect-là. Encore aujourd'hui, même si je ne fais plus de séances, je sens toujours des choses. J'ai l'impression de pouvoir lire des pièces, un lieu, un endroit. Enfant, j'avais beaucoup de terreurs nocturnes. C'était dur à vivre d'avoir l'impression d'être visitée par des esprits. Je me suis intéressée tardivement aux paralysies du sommeil. C'est peut-être ça qui provoque la nuit une sensation de sentir une présence très forte, de voir une silhouette sombre près du lit, de se sentir tirée ou repoussée comme si on m'appuyait sur les épaules. C'est un état entre le sommeil profond et l'état de conscience. Dans mes rêves, j'ai toujours l'impression que des inconnus me rendent visite pour communiquer ou faire passer des messages. À chaque fois, je leur dis de me laisser tranquille, mais c'est peut-être juste mon imagination.
Passionnant.
Merci à Ashley Tola d'avoir lu ce témoignage.
Le moment
pop culture.
Pop culture.
Alors, dans la pop culture, les exemples sont assez innombrables. On va pas passer en revue de manière exhaustive toutes ces illustrations de femmes dans l'horreur. Mais ce qu'on peut dire d'abord, en tout cas, c'est que la fiction est souvent une manière de mettre à distance la hantise qui existe dans la société du corps féminin. Il y a par exemple la maternité monstrueuse ou satanique et ces fluides angoissants qu'on peut voir dans le film de Roman Polanski, Rosemary's Baby, ou également dans le Alien de Ridley Scott, où l'on voit un hôte monstrueux, mais aussi la peur de la dévoration. Et cette phobie vraiment historique du corps féminin se retrouve dans d'autres films comme Teeth, qui parle donc de vagina dentata, donc d'un vagin avec des dents.
Moi, j'étais morte de rire, hein, mais...
Oui, mais aussi dans le Carrie de Brian De Palma, adapté de King, qui est un peu la matrice de tous ces films-là, dans lequel le sang menstruel est le signe d'une puberté surnaturelle.
Pour Carrie, ce sera la réalisation d'un rêve. Pour tous les autres, cela deviendra un cauchemar.
C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans L'Exorciste, qui est une sorte de métaphore du corps adolescent et de ses transformations.
Qu'est-ce qui se passe ?
On écoute Taous nous parler du film Jennifer's Body.
Mais une de mes figures féminines de l'horreur préférée, c'est Jennifer Check du film Jennifer's Body, qui est incarnée par Megan Fox. Donc c'est un film réalisé par Karin Kusama et écrit par Diablo Cody, dans lequel Megan Fox joue une jeune adolescente, une jeune lycéenne, donc cheerleader, super belle, Megan Fox quoi. qui se fait sacrifier par un groupe de rock qui veut sacrifier une vierge à Satan pour trouver le succès. Sauf que bah, elle a menti, elle n'est pas vierge, et ça ne la tue pas. Elle revient à la vie, mais elle revient à la vie sous une forme un peu différente, puisqu'elle devient un genre de succube qui doit se nourrir d'hommes pour continuer à survivre. Sinon, elle se désagrège un peu physiquement, elle se détériore. Et quand le film est sorti, ça a été un four. Tout le monde s'est foutu de la gueule de ce film parce qu'il a été marketé vraiment que sur le sex appeal de Megan Fox. Et aujourd'hui, il y a une espèce de retour à Jennifer's Body où toutes les féministes de notre génération et les fans d'horreur en particulier reviennent vers ce film et disent qu'en fait, ouais, il est quand même vachement bien.
On peut jouer au papa et à la maman si ça te dit.
Oh merde.
Alors, il y a aussi les figures de vampiresse, puisqu'on parlait d'entretien avec un vampire tout à l'heure. Évidemment, il y a les séries True Blood, Vampire Diaries. Il y a aussi le personnage de Lady Gaga dans American Horror Story.
I'll see to it you get what you want.
Are you out of your goddamn mind? I'd kill you if you weren't dead already.
Et d'ailleurs, si vous avez toujours pas vu le film de Julia Ducournau, Grave, je vous conseille de le regarder. C'est plutôt du cannibalisme, mais vraiment, c'est archi bien et hyper terrifiant. Ça se passe dans une école de vétérinaire.
Bah, ça tombe bien, parce que je ne l'ai pas vu, donc je le mets sur ma to-do list.
Ah ouais, vas-y.
Il y a une autre figure dont on peut parler, c'est le motif de la final girl, donc c'est la fille qui va survivre à la fin, notamment dans le film Scream. En réalité, c'est un motif qui a été critiqué pour sa misogynie, puisque souvent, les mauvaises filles se font trucider, et la bonne petite fille, c'est la seule qui survit à la fin. Bon, mais en même temps, elle va aussi porter sur elle le sceau de la malédiction. D'ailleurs, on en profite pour signaler que Scream 6 devrait sortir en janvier 2022, donc bon, on a le temps.
Ah, je serai en salle, je serai la première.
On ira ensemble.
On peut aussi dire que les lesbiennes sont souvent représentées dans le genre horrifique, et pas juste parce qu'elles meurent les premières, comme dans Walking Dead.
Bouh.
D'ailleurs, on peut citer récemment quasiment tous les personnages joués par Sarah Paulson dans les différentes saisons de American Horror Story.
C'est clair.
Elle joue une journaliste lesbienne, une mère lesbienne. Mais Netflix nous a encore sorti une merveille avec Ratched.
May I ask why you're headed to Lucia?
It seems like a rather personal question.
Well, I'm sorry, ma'am. Didn't mean to make you uncomfortable.
I didn't say you made me uncomfortable. I said the question was personal.
C'est un préquel pop féministe de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc on suit un peu la construction de cette infirmière terrifiante dans le film, mais absolument tendre dans cette série. Sarah Paulson tombe amoureuse de Cynthia Nixon.
Oui.
Celle qui veut mettre les républicains en défaite à New York. On adore cette histoire. Donc oui, Ryan Murphy a tendance à bien nous représenter en ce moment. On peut aussi citer Bly Manor, une autre superbe histoire d'amour, mais qui fait bien pleurer.
It's going to sound strange, but I'm having somebody else's dream.
Ça, c'est toujours un petit peu relou. Parfois, on peut croire que les lesbiennes sont forcément condamnées à être séparées et vivre tourmentées jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est adapté du Tour d'écrou de Henry James que je me suis empressée d'acheter à la librairie en click and collect.
Tu as bien fait. Et c'est donc à voir sur Netflix. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un petit sondage, une petite étude qui a été relayée par BuzzFeed, selon laquelle, parmi les films qui provoquent la plus grande accélération du cœur chez les spectateurs et les spectatrices, il y a heureusement des films de femmes, notamment le Babadook, mais aussi The Descent. Alors moi, j'aime beaucoup The Descent. C'est pas un très grand film, mais si vous aimez la spéléologie, les femmes dans des grottes et les monstres souterrains, franchement, bon, c'est un film qui repose principalement sur le jumpscare, c'est-à-dire sur l'effet de surprise. Mais moi, ça m'avait vraiment fait dresser les cheveux sur la tête. Voilà, je vous le recommande.
Où est-ce qu'on est exactement ? Ces grottes n'ont pas de nom, Sam. C'est un nouveau système. Je voulais qu'on le découvre ensemble.
Il y a également un podcast que vous pouvez écouter si vous voulez suivre toutes ces affaires surnaturelles et qui les détricote un peu. C'est le podcast In Tenebris. Et en plus, il est en français, donc allez-y. Et ces jours-ci, il devait y avoir au cinéma le nouveau The Craft. Donc si vous n'avez pas vu l'original, vous pouvez le revoir. Bah, moi, du coup, je n'ai pas vu cette nouvelle mouture donc, qui s'appelle The Craft, les nouvelles sorcières. On verra si le film sort peut-être dans quelques mois.
Et on peut aussi saluer le super boulot de Jordan Peele, alias le roi des chocottes.
Ouais.
Je sais pas si vous avez vu Get Out, mais c'est absolument phénoménal.
So how long has this been going on, this thing?
We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go.
Moi, j'ai eu particulièrement peur de Us, qui est un film absolument super parce qu'aussi il raconte en creux le tropisme des films d'horreur qui sont toujours un peu des films blancs. Les noirs et les lesbiennes meurent toujours en premier, hein, c'est un peu la malédiction. Et surtout, les peurs sont des peurs de personnes blanches. Jordan Peele donc remet un peu les pendules à l'heure avec son boulot et bientôt il va produire une version de Candyman, mais ça on s'en réjouit tellement avec des meufs enquêtrices.
Candyman. The urban legend is, if you say his name five times while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you.
Who would do that?
Candyman.
Oui, il faut rappeler quand même que Candyman, c'est le seul fantôme serial killer noir dans tous ces films de fantômes. Et que c'est lui-même le fantôme d'un ancien esclave. C'est un film avec des femmes et des personnes noires, donc... On est pour. Enfin, l'original était vraiment super, donc on a hâte de voir ce que ça va donner.
Et connaissant Peele, à mon avis, il va y mettre une bonne dose d'humour. C'est aussi pour ça qu'on l'adore. Il fait peur et il fait rire en même temps. D'ailleurs, il a produit la super série bien terrifiante Lovecraft Country, qui, là encore, prend le point de vue féminin et noir. On se réjouit aussi de voir le nouveau film de Justin Simien, réalisateur de Dear White People, ça s'appelle Bad Air. Il est sorti fin octobre sur la plateforme Hulu et il raconte le parcours d'une jeune femme noire obligée par sa patronne de se poser des rajouts pour se fondre dans un décor de blanc. Mais les cheveux sont enchantés. Enfin, enchantés ou hantés. On vous laissera mettre de cette analyse.
Une certaine idée de l'enfer.
Ouais, ça a l'air absolument terrifiant. Et par ailleurs, je conseille un autre film d'horreur qui part pour changer de l'expérience des non-blancs. Je l'ai vu hier soir, je suis encore un peu traumate. Ça s'appelle His Home, du réalisateur britannique Remy Weeks. Il est dispo sur Netflix. C'est l'histoire de deux réfugiés soudanais traumatisés par la guerre et la traversée de la Méditerranée, ou de la Manche d'ailleurs, on ne sait pas trop, dans laquelle ils ont perdu leur fille et à qui on refile un taudis à leur arrivée en Angleterre. Et ce taudis est hanté.
Oh mon Dieu, mais la poisse quoi.
Comme tu disais tout à l'heure Clémentine, c'est les fantômes dans les murs. C'est très psychologisant, c'est un film qui se dit de l'elevated horreur, donc de l'horreur cérébrée. Il explore les mécanismes du trauma et un trauma qui reste bien trop marginalement traité dans la pop culture. Donc c'est vraiment un super film, je vous le conseille.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles.
De quoi de meuf ?
Bah alors vous allez rire, mais je vais vous recommander de lire Lucky Luke.
Ok.
Pour les discussions qu'il génère, le dernier album qui s'appelle Un cowboy dans le coton. Donc Lucky Luke, à la base, c'est un peu une série de BD où les femmes et les personnes racisées n'ont guère de place, si ce n'est des Indiens absolument ridicules autour d'un feu, enfin ce genre de choses. Cet album-là remet un tout petit peu les pendules à l'heure, mais avec un gros mais, puisque Lucky Luke hérite d'une plantation après la fin de la guerre de sécession.
Non mais c'est pas possible.
Non mais attends, tu vas voir. Et les esclaves ont l'intention de ne pas se laisser faire, ils sont menés par une institutrice syndicaliste qui est super. Mais évidemment, il y a un gros problème, c'est que Lucky Luke est un peu le gentil blanc color-blinded qui brise les chaînes, défait le Ku Klux Klan. Donc ça, c'est quand même un peu problématique, même beaucoup. Mais il est secondé et même dominé par Bass Reeves, qui est le premier Marshall noir de l'histoire des États-Unis. Et à la fin, l'éditeur rappelle bien les chiffres que 25% des cow-boys à la conquête de l'Ouest étaient noirs. Donc c'est un peu une remise des pendules à l'heure. Et je me dis que c'est quand même cool pour les Golds de lire ça. Mais il faut quand même se souvenir qu'à chaque fois, il faut que ce soit donc le gentil blanc qui brise les chaînes. Et ça, c'est quand même un peu relou. Mais je vous conseille de le lire pour vous faire votre opinion.
White Savior, quoi.
Ouais, exactement. Et toi, qu'est-ce que t'as lu ?
Alors moi, c'est un roman qui s'appelle Kudos, de Rachel Cusk, aux éditions de L'Olivier. Alors Rachel Cusk, c'est une autrice anglaise. Ah, toi, tu connais ?
J'adore Rachel Cusk.
Ah, ok, je savais pas. Bon, bah moi, je la connaissais pas. Donc ce livre, c'est le troisième volet d'une trilogie. Alors moi, j'ai pas lu les deux premiers, mais je suis pas sûre que ce soit très important pour comprendre celui-ci. Pour moi, c'est une découverte, hein, puisque je la connaissais pas. Il faut savoir qu'elle a beaucoup fait parler d'elle en écrivant sur son divorce, et du coup... Depuis, elle a décidé de se mettre en retrait, en tout cas dans la narration, puisque ce livre suit une romancière en tournée, donc on comprend bien que c'est elle, donc en tournée de promotion à l'étranger, mais ce qu'on entend simplement, ce sont des paroles rapportées, des récits, ce que les gens lui racontent. Voilà, c'est vraiment étonnant, je pense que ça peut désarçonner, mais voilà, je vous le recommande, et je suis ravie d'avoir l'aval d'Anne-Laure pour cette autrice.
Génial.
Et alors, Taous Merakchi avait aussi une petite recommandation à nous faire, c'est le film Ginger Snaps. On écoute.
Alors, comme j'en ai pas parlé dans ma recommandation de figure féminine de l'horreur, alors que vraiment ça me démange, je vais le faire là. Il s'agit du film Ginger Snaps, sorti en l'an 2000 et réalisé par John Fawcett, comme Farah, mais en John. C'est écrit par une femme, hein, Karen Walton, par contre. Donc c'est ça qui est un peu plus rassurant et qui fait qu'on comprend mieux le propos du film quand on le voit en se disant « Quoi ? Un mec a fait ça ? Un mec cis ?» Donc Ginger Snaps, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont obsédées par la mort et qui ont fait un pacte de suicide, qui ont dit que quand elles auront 16 ans, elles se suicideront plutôt que de rester dans leur banlieue canadienne pourrie à côtoyer des losers et des parents qui comprennent rien à rien. Et un soir, l'aînée se fait mordre par une mystérieuse bête dans la rue. Le soir même, elle a ses règles, ses premières règles. Leur mère commençait à s'inquiéter de voir qu'à presque 16 ans, elle n'avait pas encore leurs règles. Et ben voilà, ça y est, c'est chose faite. Il y en a une qui résout ce problème ce soir-là. Et son corps commence à changer, mais à changer vraiment bizarrement. Et du coup, on ne sait plus trop où se trouve la limite entre la transformation due à la puberté et celle due à la morsure de cette étrange bestiole qui, effectivement, se révèle être un loup-garou. Il y a un merveilleux parallèle dans ce film entre puberté et lycanthropie et monstruosité et peur du corps féminin quand il change et quand il devient, entre guillemets, fertile. C'est extraordinaire. C'est vraiment un de mes films cultes. Il est très particulier, un peu cartoonesque, mais c'est un coup de génie qui, malheureusement, n'a pas reçu les éloges qu'il méritait ni l'honneur qu'il méritait. Je trouve que c'est un coup de génie d'avoir mélangé puberté et lycanthropie, notamment du point de vue féminin. Je trouve que ça va vraiment extrêmement bien ensemble. La transformation de Ginger est merveilleuse à voir. Et là encore, puissance monstrueuse féminine. Mais alors après, malheureusement, ça finit jamais très très bien pour les monstres féminins. Hein, mais moi, j'ai des univers parallèles après dans lesquels je rejoue ces œuvres-là, mais avec des fins un peu alternatives dans lesquelles c'est les monstres qui gagnent. Mais bon, ça, c'est mon truc à moi. Du coup, voilà, je recommande de chaudement Ginger Snaps, qui doit pas être super facile à trouver, mais ça se trouve, ça se trouve. Catherine Isabelle dans le rôle de Ginger, c'est une merveille de sex appeal en plus. Donc voilà, non pas que ce soit le propos, hein, mais je la trouve extraordinairement sexy en loup-garou.
Oui, et alors il faut rappeler que pour les films de loup-garou féminins, il y avait déjà She-Wolf of London, qui était sorti au ciné en 1946, hein, déjà à l'époque, voilà.
Allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ?
Alors, il y a une auditrice qui nous a posé une petite question. Alors, la question de Maïsara, qui est grande sœur d'un frère de 15 ans et d'une sœur de 12 ans. Alors, je voudrais leur procurer une éducation sexuelle sans culpabilité, avec les éléments importants, dont le consentement. Sauf que je ne sais pas comment aborder le sujet, d'autant qu'ils sont gênés très vite, et moi aussi d'ailleurs. Ce serait super de bénéficier de vos conseils. Alors, Clémentine, quels sont tes conseils ?
Alors, effectivement, je pense que quand on est gêné, il vaut mieux déléguer. Alors, déléguer peut-être à la série Sex Education qui est disponible sur Netflix, dont on a déjà parlé ici et qui fait un très bon boulot pédagogique.
Et son manuel qu'on peut télécharger.
Exactement, sur sexeducation.fr. Il y a aussi des livres qu'on peut se refiler sous le manteau ou emprunter à la bibliothèque, notamment le livre Sexperience de Isabelle Filiosa et Margot Fried Filiosa aux éditions Robert Laffont. C'est un livre qui est à la fois écrit et qui est illustré, qui détricote pas mal de mythes et d'idées reçues. Il y a notamment un chapitre qui s'appelle « Le pénis et le trou » avec beaucoup de guillemets. Ça parle notamment de consentement. Alors moi, je pense qu'on pourrait quand même faire un peu plus inclusif. Mais en tout cas, c'est un bon début face au vide intersidéral laissé par l'éducation sexuelle à l'école. Voilà, j'espère que tu y trouveras ton compte. Bon bah voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court dans lequel on parlera de bande dessinée. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Merci, salut Anne-Laure.
Salut.
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Anne-Laure Pinault.
Mixage Laurie Galligani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, montage et coordination Ashley Tola.